déclaration. Parce que la parole nous enseigne que ce qu'on croit dans notre cœur et ce qu'on dit avec notre bouche s'accomplit, n'est-ce pas? J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Est-ce qu'il y a quelqu'un, une personne ici ce matin, qui croit que cette Bible est inspirée de Dieu? Amen, plus grand, gloire à Dieu. Est-ce qu'il y a des gens qui croient que vous êtes nés de nouveau? Alléluia. Donc, voici qu'est-ce qu'on va dire. On va prendre nos Bibles. Si vous n'avez pas une Bible avec vous, prenez la feuille avec les versets qui sont écrits dessus. Et on va faire cette déclaration. On va le dire avec notre bouche en le croyant de notre cœur. Voici ma Bible. C'est la parole inspirée de Dieu. C'est Dieu qui me parle. Et je suis ce qu'elle dit que je suis. Je possède ce qu'elle dit que je possède. Et je peux faire tout ce qu'elle dit que je peux faire, sans exception. Je vais maintenant recevoir la semence incorruptible, la semence durable de Dieu. Et je ne serai jamais plus pareil. Mais moi, je serai tout transformé pour toujours et pour éternité, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Wouh! C'est bon, hein? Matthieu, chapitre 16. J'ai hâte de partager ce message. Vous savez que d'habitude, le deuxième dimanche de janvier, je partage un message concernant la vision, la mission, les objectifs de notre Église. Et j'ai planifié de faire cela aujourd'hui, mais j'ai ressenti dans mon esprit que ce n'est pas encore le temps. C'est qu'il y avait quand même un peu de fondement à poser avant de partager cela. Et en fait, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? C'est la base, c'est la fondation sur laquelle on va pouvoir bâtir la vision, les objectifs pour 2005. Les choses que nous allons faire ensemble, les objectifs que nous allons atteindre en 2005, si on ne comprend pas le message d'aujourd'hui, tout notre travail va être en vain. Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment travailler en vain? En fait, le psaume dit, le psaumiste a dit que si l'Éternel ne bâtit la maison, il travaille en vain qu'il la construise. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu veut et il est en train de bâtir une maison. Et Dieu, quand Dieu travaille, il ne travaille jamais en vain. Quand Dieu fabrique quelque chose, quand il fait quelque chose, il fait toujours bien, et c'est toujours bien réussi. Est-ce que vous êtes d'accord? Hein? Un bon exemple, Dieu vous a créé, vous savez. Des fois, vous pensez que, oh, mais Dieu s'est trompé en quelque part. Non. Dieu ne fait pas d'erreur. Et c'est celui qui a commencé une bonne œuvre en vous, il est capable de rendre cette œuvre parfaite. Bonne nouvelle. Oh, mais Matthieu chapitre 16, et je sais que les choses que nous allons voir aujourd'hui, c'est ce que l'Esprit Saint veut communiquer à notre cœur. Vous individuellement, mais surtout nous collectivement, il y a des choses que le Seigneur veut qu'on voit ensemble. Et moi, je vais lire. Et je pense que dans vos notes, j'ai commencé avec Matthieu chapitre 16 et verset 15. Mais moi, je vais commencer en verset 13. Donc, si vous n'avez pas une Bible, juste écoutez pour les deux premiers versets attentivement. Mais Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demandant à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? » Et ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, et les autres, Élie, et les autres, Jérémie, ou l'un des prophètes. » Aujourd'hui, si vous feriez un sondage à Drummondville et vous demanderez aux gens, « Qui, pour vous, qui est Jésus? » Vous aurez toutes sortes de réponses. Je m'en souviens, une fois, j'étais à Sherbrooke, et il y avait une femme qui donnait, parce que moi, à l'époque, on faisait, tous les mardis soirs, on faisait des réunions, on prêchait l'Évangile à Sherbrooke, et maintenant, il y a une église là-bas que Pasteur Pierre et Chantal ont commencé. Mais à l'époque, je m'en souviens, j'étais à l'hôtel de Delta, il y avait une femme, une conférencière qui était là en train de faire une conférence sur comment... C'était, comment je dirais ça, une conférence de auto-amélioration, on pourrait dire. comment trouver la santé dans votre corps, dans votre âme, dans votre esprit, comment être bien dans sa peau, etc. Il y avait des centaines de personnes qui assistaient. Et j'ai vu qu'il venait de terminer. Et je voyais la femme qui était dans la salle, il y a beaucoup de gens, et moi je me suis dit, l'Esprit Saint m'a dit d'aller la voir et de parler avec elle. Donc je commençais à jaser avec elle, je parlais avec elle pour quelques minutes, et puis finalement j'ai posé la question, je lui ai dit, mais madame, pour vous, qui est Jésus? Oh mais Jésus, c'est une bonne personne, hein? Moi je crois que Jésus était une grande tête, c'est ce qu'elle a dit, qui est venu pour nous enseigner une bonne façon de vivre. Mais j'ai posé la question, parce que là, elle est en train d'enseigner à des centaines de personnes dans notre province comment avoir une belle vie, comment réussir dans la vie, comment avoir du succès. Et quand je lui ai posé la question, mais pour vous, qui est Jésus? Elle a dit, c'est une grande tête, une bonne personne qui nous a montré une bonne façon de vivre. Et je m'en souviens plus de tout la détail de la conversation, mais en fait, qu'est-ce que je dis, mais vous savez, Jésus est plus qu'une grande tête. Jésus est la tête. Amen. Jésus est la vie. Il est la vérité. Il est le chemin. Il n'y a pas un autre chemin. Et sans Jésus, Jésus n'a pas dit que je suis venu pour vous donner une autre façon de vivre. Jésus est venu pour vous donner la vie. Et sans Jésus, vous n'avez pas la vie. Et si c'est la même chose, les personnes disaient, oh, mais c'est peut-être Jean-Baptiste, peut-être c'est Élie, c'est peut-être Jérémie ou un des prophètes. Beaucoup de gens vont dire que je crois que Jésus était un grand prophète. Mais il y a d'autres bons prophètes aussi, hein? Et des gens sont mêlés aujourd'hui parce qu'ils disent qu'il faut avoir du respect pour toutes les religions, il faut respecter toutes les croyances. Moi, je dis que c'est pas vrai. Il faut avoir du respect pour chaque être humain parce que chaque homme et chaque femme est créé à l'image de Dieu. Et chaque homme est digne de notre respect. Chaque être humain, peu importe leur race, peu importe leur religion, est digne de notre respect. Vous êtes d'accord? Mais j'ai pas besoin de respecter leurs croyances. Si quelqu'un, si je demande aujourd'hui à une personne, qu'est-ce que je dois faire? Si je veux me rendre aujourd'hui, je veux prendre l'autoroute 20, la transcanadienne, et je veux me rendre à Québec. Et la personne dit, OK, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prendre la 20 et tu vas suivre les panneaux direction Montréal. Et la personne est convaincue qu'en suivant direction Montréal, il va arriver à Québec. Il croit cela parce que la personne n'a pas voyagé beaucoup, hein? Et la personne dit, tu suis ce panneau-là, c'est marqué direction Montréal, tu prends ça et 1h30 plus tard, tu vas arriver à Québec. Mais après 1 heure, tu arrives à la tunnel La Fontaine. Et tu dis, OK, quelque chose ne marche pas. Les directions que le gars m'a données, même s'il était sincère, même s'il croyait vraiment qu'il m'a donné les bonnes directions, il avait tort. Et c'est la même chose dans notre monde. Il y a des personnes qui vont dire, mais il faut respecter toutes les croyances. Il y a des musulmans, il y a des bouddhistes, il y a des hindous, il y a toutes ces croyances. Il faut respecter. Il faut respecter et aimer toutes ces personnes. Mais si quelqu'un me dit que j'ai pas besoin de connaître Jésus pour aller au ciel, désolé, même si la personne est sincère, il croit vraiment que qu'est-ce qu'il dit est vrai, il a tort. Jésus a dit, je suis le chemin, je suis la vie. Amen. Je suis la vérité. Il n'a pas dit, je fais partie de la vérité. Moi, avec les autres prophètes, nous sommes venus pour vous montrer plusieurs options de comment améliorer votre vie. Jésus a dit, je suis la vie, le chemin, la vérité. Amen. Mais ici, verset 16, Simon-Pierre répondit, tu es le Christ. Verset 15, pardon. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Ça, c'est la question primordiale pour chaque homme sur la planète. Il faut qu'on réponde à cette question maintenant. Qui dites-vous que je suis? Pour vous, qui est Jésus? Et il a répondu, Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen. Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, béni, heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Pierre a eu une révélation. Tout le monde a eu une révélation. Alléluia. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Et que sur cette pierre, quelle pierre? La pierre de la révélation que c'est Jésus qui est le Fils de Dieu vivant. Il y a des gens, on peut aller à certaines villes dans cette, sur cette planète, et ils vont dire que c'est là où l'Église est bâtie, là. Sur les os d'un certain homme. L'Église n'était pas supposée d'être bâtie sur les os d'un homme, mais sur le roc de la révélation du fait que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu vivant. Amen. Et il a dit, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Et que les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Alléluia! Je te donnerai les clés. Les clés représentent l'autorité des royaumes des cieux et que ce que tu lieras sur la terre. Là, c'est Jésus qui parle à un homme qui vient d'avoir une révélation que Jésus est le Fils de Dieu. Jésus est en train de dire que ceux qui reçoivent cette révélation de Jésus et ceux qui font partie de cette Église inébranlable, ceux qui font partie de cette Église qui va toujours vaincre, qui va toujours triompher, ils vont recevoir en même temps les clés des royaumes des cieux. Et ce que vous liés sur la terre sera lié au ciel. Ce que vous déliez sur la terre sera délié au ciel. Nous avons le droit, le privilège de faire partie d'une Église qui a une autorité suprême sur la terre. Amen. Et ce que tu délierais sur la terre sera délié dans les cieux. Hallelujah. Aujourd'hui, je veux vous parler juste pour quelques minutes de l'Église. Quand on dit « Église » ici au Québec, souvent, si on dirait ce mot « Église », il y a une image qui va apparaître dans les pensées de chaque personne. Est-ce que vous êtes d'accord? Il y a beaucoup de similarités, je pense, quand on dit « Église » au Québec. Les gens pensent « Religion ». Ils pensent souvent « Un grand bâtiment ». Ils pensent des fois à « L'oppression ». N'est-ce pas vrai? Ils pensent à un manque de liberté. Ils pensent à des personnages qui se sont imposés dans leur vie privée. N'est-ce pas vrai? Moi, je parle avec beaucoup d'amour aujourd'hui et de respect, mais c'est quand même la vérité. Quand on dit Église, ils pensent religion. Et un grand problème, c'est que parce que la religion a fait tellement mal, pas juste ici, mais partout dans le monde, la religion fait toujours mal. Fait pas du bien, mais du mal. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de la religion, mais c'est un Dieu de relation. Amen. Et c'est pas faire partie d'une religion qui va vous sauver, c'est d'avoir une révélation de Jésus et de suivre cette révélation qui va vous sauver. Mais quand les gens pensent religion, ils ont été opprimés, ils ont eu des mauvaises expériences, que quand une personne qui a été opprimée par la religion et par les églises, viennent à la connaissance de Jésus. Et quand la personne a une révélation de Jésus et la personne est née de nouveau, il y a une tendance chez ces gens-là que de quand même avoir une mauvaise attitude envers l'Église et les Églises. Est-ce que j'ai raison? Parce que pour eux, Église égale oppression. Église égale manque de liberté. Église égale toutes les choses que j'aime pas dans la... Mais en réalité, on a besoin de changer. La parole de Dieu dit, ne soyez pas conformes au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Et le Seigneur veut que notre intelligence soit renouvelée à propos de son Église. L'Église est une chose glorieuse. L'Église est la chose la plus importante sur la terre. Il y a des chrétiens qui disent, mais moi, je suis chrétien maintenant, j'ai pas besoin d'une église, j'ai pas besoin de fréquenter une église. La seule chose qui compte, c'est que je fais partie de l'Église universelle. Je suis chrétien, j'ai une bonne relation avec Dieu, je m'affiche de l'Église. Mais on ne peut pas avoir cette attitude, parce que les deux vont de pair. Nous sommes appelés en communion avec Dieu le Père et Dieu le Fils, et on est appelés en communion avec les frères et les sœurs dans le corps de Christ. Et Jésus, quand, dès que Pierre a dit « Tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant », il a dit que tu as eu, c'est le Père qui t'a révélé cela. Mais tout de suite après, il parle de son Église. Il n'a pas dit « Oh, que je suis content, Pierre, toi tu es sauvé ». Il a dit « Non, tu as eu la révélation et je vais bâtir une Église ». Le plan de Dieu, le désir de Dieu, le cœur de Dieu a toujours été de bâtir une Église. Donc, enlevons nos lunettes religieuses, ôtons de notre pensée les mauvaises expériences qu'on a eues, les choses négatives, ce que les hommes ont fait pour corrompre la définition ou l'image de l'Église dans notre tête, et voyons l'Église telle qu'elle est dans le cœur et la pensée de Dieu lui-même. Voyons l'Église comme Dieu voit l'Église. L'Église est glorieuse, l'Église est précieuse, l'Église est triomphante, l'Église est pleine d'autorité, et l'Église est la chose la plus importante sur la terre et au ciel. L'Église. Si vous aimez Dieu pour vrai, vous allez aimer l'Église. Vous allez avoir un amour pour l'Église. Vous allez même être prêt à donner votre vie pour l'Église. Pas pour la religion. Pas pour une institution humaine, mais pour l'Église. Et déjà, même là, quand je dis ça, il y a des gens qui, tout de suite, ouh, ah, avertissement, oh, qu'est-ce qu'il dit là? C'est pas sûr. Bip, 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 bip. Parce que j'ai dit que si vous aimez vraiment Dieu, vous serez prêt à donner votre vie pour l'Église. Laisse-moi vous poser une question. Est-ce que vous êtes mieux que Jésus? Jésus a donné sa vie pour quoi? Pour l'Église. Jésus est mort, il s'est livré lui-même pour l'Église. Le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Jésus nous demande. En Jean 3, 16, tout le monde peut citer Jean 3, 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Combien de vous pouvez citer en Jean 3, 16? En Jean 3, 16. Quelqu'un le fait vite? Non, ça c'est Jean 3, 16. 1 Jean 3, 16. Amen. Ça, c'est 1 Jean 3, 16. Que nous devions donner notre vie pour nos frères. Qui sont nos frères? C'est l'Église. Je veux qu'on change notre façon de penser. On a été abusé peut-être par la religion. On a eu des mauvaises expériences, mais on ne peut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. OK? Comme on dit, juste parce que maman a brûlé les biscuits, est-ce que vous n'allez jamais plus manger un biscuit? L'Église est la chose la plus importante et plus précieuse aux yeux de Dieu. En fait, j'ai mis ça dans vos notes. Il n'y a rien de plus précieux aux yeux de Dieu que l'Église. Alléluia. Je vais juste lire ces versets que j'ai mis dans vos notes. Acte 20, 28, c'est l'apôtre Paul qui parle au pasteur de l'Église d'Éphèse, il dit « Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église du Seigneur, qu'il s'est acquise par son propre sang. » Est-ce que vous voyez que quand Jésus est mort, il n'est pas juste mort pour les individus, il aime les individus. Et je suis convaincu que si vous étiez la seule personne sur la planète, Jésus aurait versé son sang pour vous. Mais quand Jésus est mort sur la croix, il n'avait pas une vision des individus sauvés. Il avait une vision d'une Église sauvée. Un peuple sauvé. Un peuple lié, pas des individus indépendants, mais une famille interdépendante. Jésus est venu pour donner sa vie dans le but d'acheter avec son propre sang une Église. Et il a dit, je bâtirai mon église. Ce n'est pas mon église. Souvent, les pasteurs disent, ah, mais c'est mon église, ou on va dire c'est mon église. La réalité, c'est que c'est Jésus qui a acheté l'église, et celui qui paye est le propriétaire. Savez-vous pourquoi je prends mon tâche comme pasteur très sérieux? Parce que je réalise qu'un jour, je vais rendre compte à Dieu et à Jésus qui est le chef berger, le berger en chef, le souverain pasteur. Un jour, je serai face à face avec lui et je vais rendre compte à lui pour la façon que j'ai pris soin de son église. Un jour, j'avais le privilège, quand j'avais 20 ans à peu près, Tanya et moi, on était mariés juste en couple d'années, il y avait un homme de notre église qui est tourné de bord à l'église, il a dit, tu sais, et c'était un homme qui était un homme prospère, il a dit que moi je pars pour les affaires pour une semaine et j'aimerais juste savoir si tu aimerais, parce que à l'époque, on conduisait une bonne auto, mais elle était loin d'être neuve. Elle a fini par avoir 212 000 milles par kilomètre, mais milles. Mais il tourne de bord et dit, j'aimerais savoir si tu aimerais avoir mon BMW pour une semaine. Et j'aime les BMW. C'est des super de bonnes autos, hein? Et c'est sûr que j'étais bien content. Mais quand il m'a donné les clés, vous savez qu'avec la joie venait une responsabilité. C'est pas mon auto. Je vais le conduire, je vais la garder propre et je vais la ramener sans être graffiné ou quoi que ce soit, ça va être en bon état. J'ai pas pris l'auto en disant, bon, je vais aller voir jusqu'à... Qu'est-ce que je peux faire avec ce moteur, hein? Est-ce que je peux atteindre... 190 km de l'heure, j'ai pas essayé, j'ai pas osé, je conduisais avec prudence. Pourquoi? Parce que l'auto n'était pas à moi, c'était à lui. Et gloire à Dieu, j'étais capable, après une semaine, de lui redonner les clés avec une auto en parfait état. Amen. Et je sais que moi, en tant que pasteur, quand le Seigneur m'a donné la clé, l'autorité pour être pasteur et berger, sous-berger de cette église, c'est avec joie, mais c'est avec, OK, Seigneur, c'est pas mon église. C'est pas moi qui ai versé mon sang pour l'église. C'est pas moi qui ai été pendu à la croix. C'est pas moi qui ai dit, oh mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est pas moi qui est allé à l'enfer. C'est Jésus, son église. Amen. Il vous a racheté avec son sang. Et un jour, je vais face à face avec lui et je vais dire, Seigneur, le troupeau que tu m'as confié. Je vais rendre compte. C'est sérieux, n'est-ce pas? Mais Jésus, il a acheté l'Église avec son propre sang. Je ne m'appartiens pas à moi-même parce qu'il m'a acheté. Vous ne vous appartenez plus à vous-même parce qu'il vous a acheté. Nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes parce qu'il nous a acheté. Nous lui appartenons. Bonne nouvelle, n'est-ce pas? Oui, parce que nous avons un bon propriétaire. Alléluia. Éphésiens 5, 25 dit ceci, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte, irrépréhensible. Laissez-moi vous dire ceci par l'Esprit de Dieu. Faites attention, prenez garde avant de critiquer l'Église de Jésus-Christ. Parce que quand vous parlez contre l'Église, vous parlez contre celui qui l'a acheté avec son sang. Amen. L'Église, on devrait avoir un honneur et une révérence pour le Seigneur, et on devrait avoir un honneur et une révérence pour son Église. J'avais un honneur et une révérence pour le BMW. Parce que ce n'était pas moi. Et on devrait avoir cet honneur, cette révérence pour l'Église, parce que ce n'est pas nous. Amen. Deuxième chose dans vos notes, il n'y a rien de plus important sur la terre que l'Église. Il faut que vous voyez cela, il faut que vous croyez cela. Il n'y a rien de plus précieux sur la terre et aux yeux de Dieu que l'Église. Aux yeux de Dieu, rien n'est plus important que l'Église. Et sur la terre, il n'y a rien de plus important. Dans notre mentalité, surtout ici au Québec, je crois, parce que pour le moment, aujourd'hui, et ça va changer très bientôt, nous sommes une minorité. Les chrétiens évangéliques comptent pour moins de 1% de la population. OK? Et parce que nous comptons pour moins de 1%, parce que nous ne sommes pas toujours vus d'une façon agréable ou avec beaucoup de respect ou d'honneur par ce monde, on peut, si on ne fait pas attention, on peut développer une mentalité d'infériorité. Où on a même honte d'avouer notre foi. On a honte de dire que je vais à l'église. On a honte de dire à nos collègues et à nos voisins que, hey, je vais à l'église 3 fois par semaine, c'est votre problème. Hein? J'aime mon église. Oh, je lis la Bible. Hein? Je donne la dîme avec joie. Qu'est-ce qu'il y a? C'est tombé sur votre tête. C'est ça, ils vont dire, oh, c'est un secte. Non, c'est l'Église. Amen. Il y a des sectes. Les sectes sont dangereux. Un secte va dire, un secte va vous éloigner de Jésus qui est la tête de l'Église. Les sectes vont parler de Jésus, mais demandent, pose-leur la question, pour vous, qui est Jésus? Ils vont dire qu'il est en Dieu, mais pas le Dieu. Ils vont dire toutes sortes de choses, mais ils ne vont jamais dire que c'est Dieu qui est venu et s'est manifesté dans la chair et que c'est lui le seul sauveur du monde. Ils vont ajouter leurs propres choses et ils vont dire aussi que si vous ne faites pas partie de notre petit groupe, que vous êtes perdu, vous ne pouvez pas être sauvé. Moi, je vous dis aujourd'hui que si vous n'êtes pas obligé de faire partie de la vie comblée pour aller au ciel, vous êtes obligé d'être né de nouveau, point final. Même si vous ne faites pas partie d'une église, vous pouvez aller au ciel. Mais vous ne pouvez jamais atteindre le maximum de votre potentiel. Vous ne pouvez jamais faire la volonté de Dieu pour votre vie. Vous ne pouvez jamais accomplir les œuvres que Dieu a préparées pour vous avant la fondation du monde si vous n'êtes pas attaché à une église. On n'est pas un secte. On aime Jésus. Et on aime son Église, et c'est biblique, et c'est bon, et c'est une chose qu'on a besoin de saisir dans notre cœur et dans nos pensées. Il n'y a rien de plus important sur la terre que l'Église. Qu'est-ce qui se passe? Je prie pour notre mairesse, je prie pour notre conseil municipal, et j'ai du respect et de l'honneur pour eux, et c'est Dieu qui a établi eux comme autorité. Mais savez-vous quoi? Eux autres, ils ont une autorité déléguée par Dieu pour gouverner cette ville. Mais moi, j'ai une autorité déléguée par Dieu pour gouverner le monde entier. Pas sur le plan politique, mais dans l'esprit. Nous, je ne parle pas de moi, Ken Taylor, mais nous, l'Église. Nous avons reçu les clés. Ce n'est pas moi qui l'invente, c'est Jésus qui a dit... Sur cette pierre, je bâtirai mon église, les séjours de monde ne préventeront pas contre elle. Et tout de suite après, je vous donnerai les clés. Je vous donnerai l'autorité. Et ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Ce que vous délierez sur la terre sera délié. Est-ce que vous comprenez l'autorité que nous avons, l'église, sur la terre? Il n'y a rien de plus important, rien de plus puissant. Et nous sommes numéro 1 et pas numéro 2. Nous sommes la tête et non pas la queue. Et on ne devrait pas se cacher, on ne devrait pas avoir honte. On devrait, avec fierté, avec hardiesse et avec assurance, se lever et prendre notre place dans ce temps, dans l'histoire de l'humanité. On a une mission. Est-ce que vous êtes là? Savez-vous que vous, si vous êtes né de nouveau, vous faites partie de l'Église de Jésus-Christ? Qu'est-ce que l'Église? On va voir qu'est-ce que c'est l'Église. Premièrement, numéro 1, l'Église, c'est la famille de Dieu. C'est dans vos notes, la famille de Dieu, dont vous êtes un enfant. N'est-ce pas bon d'être dans une famille? Peut-être vous avez eu une mauvaise expérience dans votre famille naturelle. Peut-être vous n'avez pas eu un bon père ni une bonne mère. Peut-être vous avez eu une mauvaise relation avec vos sœurs, vos frères, ou vous ne connaissez même pas c'est qui, ou je ne sais pas votre situation dans la vie. Mais peu importe qu'est-ce que vous avez vécu dans votre famille naturelle, la bonne nouvelle, c'est que dès que vous êtes né de nouveau, vous faites partie de la famille de Dieu, dont Dieu est le Père, dont Jésus est notre grand frère, et dont nous sommes tous les enfants. Ah, je suis enfant de Dieu. Il est mon papa, il est mon père et il m'aime. Et le monde aujourd'hui a faim de voir une famille. On parle souvent des familles dysfonctionnelles, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, le monde a besoin, parce que c'est vrai, dans ce monde, tout est dysfonctionnel. Tout détruit. Mais aujourd'hui, on peut créer dans l'esprit, on peut avoir une manifestation de la famille de Dieu ici sur la terre. Et même si vous, dans le naturel, tout est rupturé, tout est brisé, le Seigneur, dans l'esprit, peut faire en sorte que rien n'est brisé et rien manque dans votre famille. Amen. Il peut vous donner des mamans spirituelles, des papas spirituels, des frères spirituels, des sœurs spirituelles, des nièces, des neveux spirituels. Et ensemble, nous allons vivre en harmonie, en paix. Nous sommes la famille de Dieu. Le monde a besoin de voir une famille. Et le monde a besoin de faire partie d'une famille. En fait, Hébreux 2 dit ceci, « Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses. » Avez-vous saisi qu'est-ce que je viens de dire? On parle de Jésus. « Celui pour qui toutes choses ont été faites pour lui et par qui toutes choses ont été faites par lui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. » On dit beaucoup de fils. Élevant à la perfection par la souffrance le prince de leur salut, car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. J'ai un grand frère, il s'appelle Jésus. Mon père est le roi de l'univers. Je suis dans une famille royale. Amen. Est-ce que ça c'est orgueilleux? De dire cela? C'est la vérité. En fait, c'est humiliant. Pas humiliant, mais ça fait en sorte qu'on veut s'humilier devant Dieu et dire, oh wow, quel honneur, quel privilège, parce que je sais que je n'ai pas mérité ma position dans la famille. Qu'est-ce que j'ai mérité, c'est l'enfer. Ce que j'ai mérité, c'était la séparation avec Dieu. Mais qu'est-ce que j'ai hérité par la grâce, par le moyen de la foi? C'est un salut complet où je fais partie maintenant de la famille de Dieu. Et je suis un enfant de Dieu. Mon cœur, en 2005, on va voir cette famille, la famille de Dieu, est à la fois universelle et locale. Donc, ça ne marche pas de Dieu. Mais moi, je fais partie de l'Église universelle, je ne veux pas m'impliquer dans une Église locale, ça ne marche pas. Moi, j'ai 5 enfants, ils vivent tous avec moi. Et un jour, ils vont grandir, se marier, avoir leur propre famille. Ils ne vont pas vivre tous chez moi. Hein? Surtout quand ils ont tous leurs 5 enfants aussi. Hein? Et j'ai 25 petits-enfants. Eux autres, leurs conjoints, plus 25 petits-enfants dans ma maison, non, pas pour l'instant. Ils vont venir nous rendre visite et on va célébrer et puis on va les renvoyer après. C'est ça, hein? L'Église spirituelle, la famille spirituelle, c'est pareil. On est tous dans la même famille. Mais Dieu a organisé l'Église dans les églises locales et chaque église locale a sa place et ça fonctionne. Et vous avez besoin d'être attaché. Suivez le cours d'Écrire la vie comme son enfant, on parle de ça beaucoup. Mais ici, cette année, mon cœur, mon désir, c'est de voir une Église, une famille grandir. Et ça va être une grande famille. Ça va être une grande famille. Dieu veut amener beaucoup de fils à la gloire. Et si Dieu va amener beaucoup de fils, c'est-à-dire que les églises locales, il faut en avoir beaucoup et il faut qu'elles soient nombreuses. Donc quand on parle pas de chiffres, on parle des âmes. On parle des frères et des sœurs. Amen? Et Dieu nous a envoyés spécifiquement à Drummondville pour bâtir une famille spirituelle qui est en santé, mais qui est nombreuse. Est-ce que vous êtes prêts? Alléluia! On va faire de la place pour nos nouveaux frères et sœurs cette année. Amen. Numéro 2.
L'Église est la maison de Dieu dont vous êtes une pierre vivante. L'Église, c'est la famille de Dieu, mais Dieu est celui qui bâtit. Jésus a dit, je bâtirai mon Église et les portes de séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Jésus bâtit et construit une maison. Donc, Jésus est la pierre angulaire. Et selon ce verset ici, dans vos notes, en Pierre chapitre 2, approchez-vous de lui, pierre vivante. Jésus est une pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, tout le monde dit, moi-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle en saint sacerdoce afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Nous sommes une famille, mais nous sommes une maison. Et vous êtes une pierre vivante. Une pierre vivante, isolée dans un champ. Qu'est-ce que cette pierre peut faire? Qu'est-ce que cette pierre peut contenir? Rien. Vous savez, il faut avoir cette révélation. La Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Mais vous n'êtes pas juste le temple du Saint-Esprit individuellement. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Paul a dit, vous, pluriel, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Vous êtes la maison de Dieu. Il n'y a personne. Oui, le Seigneur habite en nous individuellement. Il habite dans chaque pierre individuellement. Mais une pierre isolée, séparée d'autres pierres, ne peut rien faire. Dieu, il veut nous amener ensemble et nous bâtir l'un sur l'autre, l'un sur l'autre. Imaginez, on sait qu'à l'autre côté du Gyproc, ici, il y a des blocs de ciment. Imaginez si on enlèverait la moitié. On peut enlever le Gyproc et on enlèverait juste encore des blocs. On aurait des trous un peu partout. N'est-ce pas? Est-ce que ça serait agréable à l'intérieur de la bâtisse ce matin? On aurait froid, n'est-ce pas? Et en plus, ça va peut-être affaiblir le mur et le mur va peut-être s'écraser et tomber. Vous savez, vous êtes important. Si nous sommes, on pourrait dire, la première arrivée dans la maison à la vie comblée, le Seigneur veut bâtir, il veut amener d'autres pierres. Mais avant que toutes les pierres soient amenées, il faut que chacun de nous soit à sa place. On pourrait amener un tas de briques de ciment et mettre un tas des centaines de briques de ciment ici sur le stationnement et on n'a pas une bâtisse non plus. Tous les blocs sont présents, mais ils ne sont pas assemblés. Nous sommes une assemblée. Et il faut que chaque pierre soit à la bonne place, dans le bon mur. Ce n'est pas à nous de choisir quel mur dont on va faire partie non plus. C'est à nous de dire, Seigneur, je m'approche de toi, c'est toi qui es la pierre angulaire, la pierre vivante. Place-moi où tu veux que je sois. Parce que quand je suis à ma place, je vais être connecté avec les autres pierres qui vont à leur place et je vais préparer la place pour recevoir d'autres pierres après. Cette année, n'oubliez pas que nous sommes les pierres vivantes dans la maison de Dieu. Numéro 3, l'Église de Jésus-Christ est aussi appelée l'épouse de Jésus-Christ. Vous voyez que Dieu, il aime son Église, il a beaucoup d'affection pour son Église. Et en fait, la Bible dit que Dieu est un Dieu qui est jaloux. Est-ce que vous savez que Dieu est jaloux? Ça veut dire ceci, il ne veut pas nous partager avec qui que ce soit. Je me suis marié avec Tania il y a presque 20 ans, ça va faire 20 ans le 15 juin, et laisse-moi vous dire, je ne partage pas mon épouse. Non, 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 non. Elle est à moi. Et je suis à elle. Je ne partage jamais. Dieu, il nous regarde et il dit que nous sommes l'épouse de Jésus-Christ. Nous sommes la fiancée. Un jour, on va avoir un os au ciel. On va être marié avec le Seigneur Jésus. Nous, en tant qu'Église, on va être l'épouse de Jésus-Christ. Mais ici, sur la terre, maintenant, dans vos notes, numéro 3, l'Église est l'épouse de Jésus-Christ pour qui vous êtes une vierge. Une vierge. On ne parle pas sexuellement ici. Mais vous êtes une vierge. Réservée, séparée pour votre époux. Amen. En fait, c'est biblique, qu'est-ce que je dis? Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. N'est-ce pas merveilleux que dans l'Église, peu importe qu'est-ce qu'on a fait dans le passé, on vient à lui, on est purifié par le sang de Jésus et on recommence à zéro, un nouveau départ. Amen. Dieu a un plan. C'est le plan de Dieu que, même dans le naturel, que des personnes restent pures sexuellement avant de se marier. Vous savez que c'est le plan de Dieu. Ce n'est pas le mode aujourd'hui, mais c'est le plan de Dieu. Il y a une raison pour cela, parce que c'est un symbole de Christ et l'Église. Et je sais que, moi je dirais que les statistiques nous montrent que la plupart des gens sur la terre, il n'y a pas beaucoup de vierges dans notre société. Même chez les ados très jeunes. C'est rare. C'est l'exception d'être vierge quand une personne se marie aujourd'hui. C'est l'exception. Ça ne devrait pas être le cas. Ça serait un bon but, un objectif. Mais si vous n'avez pas eu cette expérience d'être vierge en vous mariant, au moins établissez un but que vous allez aider vos enfants, vos petits-enfants à avoir ça comme but. Amen. Tout en sachant que vous êtes pur, blanc comme la neige, comme si rien ne se passait, vous pouvez, dans l'esprit, devenir vierge pour le Seigneur. Pur, mis à part, séparé. Qu'est-ce que cela veut dire pour moi? C'est que nous, en tant qu'Église, on ne devrait pas partager nos affections avec les choses de ce monde. On ne devrait pas être les adultères spirituels. Dieu a dit que si tu aimes le monde, l'amour du Père n'est pas dans votre cœur. N'aimez pas le monde, ni les choses de ce monde. Amen? C'est quoi le monde? La convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. N'aimez pas les choses de ce monde, mais aimez Dieu. Soyons séparés, consacrés, sanctifiés. Ma meilleure définition et exemple de la sanctification, c'est votre brosse à dents. Votre brosse à dents est sanctifiée, n'est-ce pas? J'espère. J'espère que quand vous utilisez votre brosse à dents, il y a un seul usage. Avec une seule personne. À moins que vous voulez partager avec votre mari ou votre femme des fois, mais vous êtes un. À part de ça, laisse-moi vous dire, il n'y a personne qui utilise ma brosse à dents. Des fois, moi, j'ai une brosse à dents que j'utilise pour faire le ménage. Dans la douche et lavabo, etc. Laisse-moi vous dire une chose. J'utilise jamais. Une fois que c'est utilisé pour autre chose, j'utilise jamais plus cette brosse pour me brosser les dents. Amen. Dieu vous a sauvé, il vous a purifié, il vous a sanctifié, il vous a mis à part. Là, cet homme, cette femme, j'ai un seul usage pour lui, pour elle. C'est pour être en amour avec moi, pour faire ma volonté ici sur la terre. Et Dieu veut qu'on se présente devant lui comme une vierge, mise à part. Notre affection est seulement et uniquement fixée sur lui. Amen. Sur lui et sur l'Église. Parce que aimer l'Église, c'est aimer Dieu. Et aimer Dieu, c'est aimer l'Église. Les deux vont de pair. Amen. C'est ça que Jésus a dit. Si vous le faites pour un de les moindres de mes frères, vous le faites pour moi. Amen. Numéro 4, on va finir ici. L'Église n'est pas juste la famille de Dieu dont vous êtes un enfant. Ce n'est pas juste la maison de Dieu dont vous êtes une pierre vivante. Ce n'est pas juste l'épouse de Jésus pour qui vous êtes une vierge. Mais l'Église est aussi le corps de Jésus-Christ dans lequel vous êtes un membre. Amen. Le corps de Jésus. Est-ce que vous avez eu la révélation? On parlait au début du message. Pierre a eu une révélation de Jésus qui commençait tout de suite à parler de l'Église. Est-ce que vous avez eu une révélation de Jésus comme fils de Dieu? Mais est-ce que vous avez eu une révélation de l'Église comme étant le corps de Jésus? Encore, il est impossible d'aimer Jésus sans aimer son Église. Le blanc est rempli, mais le message n'est pas terminé. Non, juste un peu Jésus. Parce que qu'est-ce que je vais dire maintenant pour terminer est tellement important. Jésus est le tête. Nous sommes le corps. Quelqu'un qui arriverait en disant, « Monsieur, j'aime vraiment ta tête. Merveilleux. Mais commence à battre son corps. J'aime pas tellement ton bras, est-ce que je peux le casser? Il me semble que tes pieds, ça te fait pas, hein? On va les enlever. J'aime ta tête. Quel beau visage, hein? Mais le corps, non, on va tout défaire. Pourquoi est-ce que quand Saul de Tarse, il était en route pour Damas avec une lettre pour persécuter l'Église, pour arrêter les chrétiens, les mettre en prison, et il est sur la route, et tout d'un coup, une lumière descend du ciel. Il tombe par terre. Il entend une voix. Et qu'est-ce que la voix a dit? Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus que tu persécutes. Mais je ne t'ai jamais vu, Jésus. Je n'ai rien fait à toi. C'est pas ça qu'il a dit, mais... Jésus n'a pas dit, « Saul, Saul, pourquoi est-ce que tu persécutes l'Église? Saul, Saul, pourquoi est-ce que tu donnes de troubles aux chrétiens? » Il a dit, « Saul, Saul, pourquoi est-ce que tu me persécutes? » Laisse-moi te dire, hein? Si quelqu'un vient et arrive et me donne un bon coup dans le ventre, je ne t'ai pas frappé. J'ai juste frappé ton corps. Je n'ai pas touché ta tête. Commence à me donner des coups de pied. J'ai des bleus partout sur les jambes. Je t'ai pas fait mal. C'est juste ton corps. Mon corps et ma tête font un. Je ne sais pas, est-ce qu'on peut faire un essai? Est-ce que ça marche pour vous aussi? Non. L'Église ne peut jamais être séparée d'avec la tête de l'Église qui est Jésus. Impossible. Jésus et l'Église font un. Une seule plante avec lui. Si j'aime Jésus, il faut forcément que j'aime l'Église. Et pas juste en théorie. Oh, j'aime l'Église. Je déteste les chrétiens, mais j'aime l'Église. Non, pas en théorie, mais en réalité. Parce que l'Église, aujourd'hui, c'est pas une idée dans la tête de Dieu, c'est une réalité. L'Église existe. L'Église a déjà été achetée. L'Église existe aujourd'hui, vous savez. La maison est sous construction, pas terminée, mais l'Église existe. Il y a des membres qui sont déjà rendus au ciel. C'est mes frères, mes sœurs. Aujourd'hui, j'ai des frères et des sœurs au ciel. Nous avons les frères et des sœurs au ciel. Et les autres membres de l'Église sont ici sur la terre et sont supposés d'être assemblés dans les églises locales sous la direction d'un pasteur. Amen? Donc, il faut que... Si, je ne peux pas dire que j'aime Jésus si je n'aime pas les églises locales. Impossible. Changeons notre façon de penser. J'aime Jésus, j'aime l'Église. Ah, je donnerai ma vie pour Jésus. Est-ce que vous donnerez votre vie pour l'Église? Parce que sinon, vous ne donnerez pas vraiment votre vie pour Jésus. Vous m'aimez toujours? Dieu a tout donné pour acheter une Église. Sa famille, c'est l'épouse de Jésus-Christ. C'est la maison de Dieu, l'habitation de Dieu, mais c'est le corps de Jésus. Le corps de Jésus. On va juste lire ce dernier verset qui est dans vos notes. C'est grâce à lui que le corps forme un tout solide, bien uni par toutes les articulations dont il est pourvu. Ainsi, lorsque chaque partie, tout le monde dit chaque partie, fonctionne comme elle doit, le corps entier grandit et se développe par, comment? L'amour. Dieu veut que son Église grandisse dans l'amour. Dieu est amour. L'atmosphère qu'on devrait toujours avoir dans l'Église, c'est une atmosphère d'amour, d'acceptation. L'amour supporte tout. L'amour excuse tout. L'amour pardonne tout. Amen? L'amour ne soupçonne pas le mal. L'amour croit le meilleur. C'est comme ça. Est-ce que vous voulez grandir, devenir cette grande bâtisse spirituelle que le Seigneur veut qu'on soit? Je ne parle pas d'une bâtisse naturelle, je parle d'une famille, une grande famille, une épouse glorieuse, une maison grandiose pour le Seigneur. C'est l'amour. Et c'est quand chaque membre fait sa part. Si je vais me mettre en forme, Le Seigneur m'a dit de me juger là-dessus dernièrement. Je commence à faire les exercices comme il faut. Mais si je veux que mon bras soit fort, mais ma main ne veut rien savoir, ça va être pas mal difficile. Si mes mains ne veulent pas prendre les poids pour s'entraîner, mon bras ne peut pas devenir plus fort. Vous savez, il faut qu'on ait cette révélation que vous êtes, nous sommes le corps de Christ, mais vous êtes les membres en particulier. Et que si vous ne faites pas votre partie, il y a d'autres membres du corps qui vont souffrir. Amen? Cette année, je vous lance le défi. Approchez-vous de Pierre Angulaire. Dites, Seigneur, où est ma place? Hein? Cette année, dites, Seigneur, je suis membre du corps. Comme je dis toujours, si tu es appelé à être le doigt index pour la main droite, une personne qui vient au Seigneur, qui est née de nouveau, et découvre que sa destinée, c'est d'être le doigt, c'est quoi sa première responsabilité? Trouver la main droite, aussi vite que possible, et de s'attacher. Un doigt séparé d'avec le corps, qu'est-ce qu'il peut faire? Si je laisserai mon doigt à la maison, il meurt. Laisse-moi vous dire une chose. La main va continuer à vivre, mais la main va souffrir et marcher avec moins d'efficacité. OK? Un membre ne peut pas vivre sans le corps. Le corps peut vivre sans le membre. Le corps va souffrir, être moins efficace, mais quand même survivre. Les églises aujourd'hui manquent des membres. Le Seigneur est en train de bâtir. Il y a certaines choses qui sont déjà en place. Il y a d'autres membres qui ne sont pas encore arrivés. Mais quand on arrive, il faut qu'on ait de l'honneur, du respect les uns pour les autres. Il faut que chaque membre fonctionne comme elle doit. Et si on fonctionne comme on doit, l'Église va se bâtir et s'édifier dans l'amour. L'Église va devenir glorieuse, sans tâche, ni ride, ni rien de semblable. Et la chose qui est la plus précieuse aux yeux de Dieu, la chose qui est la plus importante, la plus autoritaire sur la terre, va enfin atteindre sa destinée. Amen. On va se lever debout, on va finir l'heure ce matin. Dans les semaines à venir, et au fur et à mesure, le Seigneur va nous révéler des choses spécifiques qu'il veut qu'on fasse. Mais ce que tu es est plus important que ce que tu fais. Donc, quand on parle de l'Église, ce n'est pas qu'est-ce qu'on fait qui va être le plus important, c'est qui on est. Et quand on réalise qu'on est la famille de Dieu, on est la maison de Dieu, l'épouse de Jésus-Christ, on est le corps de Jésus. Rien n'est plus important que l'Église. Rien n'est plus important que qu'est-ce qui se passe. Aujourd'hui, à Drummondville, ce qui se passe ici et ce qui se passe avec l'église de Pentecôte et à l'église baptiste et n'importe où il y a des vrais enfants de Dieu qui sont unis et réunis selon la volonté de Dieu, il n'y a rien de plus important que qu'est-ce qui se passe entre nous aujourd'hui. Et il faut qu'on ait cette révélation que qu'est-ce que nous faisons va déterminer la destinée de notre ville, de notre province, de notre pays, de notre monde entier. Vous n'êtes pas une minorité impuissante, mais vous êtes membre de l'Église. Avez-vous entendu? Nous sommes l'Église. Nous sommes la famille de Dieu. Nous sommes l'épouse de Jésus-Christ, la maison, l'habitation de Dieu. Et nous sommes le corps de Jésus-Christ. Alléluia. Vous ne pouvez pas avoir un sentiment d'infériorité en sachant que vous êtes dans l'Église. Impossible. Père, au nom de Jésus, on te remercie. Seigneur, j'ai dit les choses comme tu m'as demandé de faire. Et je compte sur l'aide de l'Esprit Saint de prendre ces vérités de la parole de Dieu et de donner un esprit de sagesse et de révélation. Parce que ces choses, ces vérités dans la tête, Seigneur, des hommes, ça ne change pas grand-chose. Mais cette révélation dans le cœur, ça change tout. Ça change notre façon de penser. notre façon de parler, notre façon d'agir, notre façon de travailler, notre façon de prendre les décisions, notre façon de marcher sur cette terre et changer, transformer, quand nous avons une révélation que nous sommes l'Église, que nous sommes le corps, pas en théorie, mais en réalité le corps de Jésus-Christ sur la terre. Oh, hallelujah. Hallelujah. Juste avec tous les yeux fermés, aujourd'hui, j'aimerais vous donner l'invitation, comme on fait à tous les dimanches matin. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui dirait, « Pasteur, je veux faire partie de l'Église. » Je ne vous invite pas forcément de faire partie de la vie comblée. Il se peut bien que c'est la volonté de Dieu pour vous d'être attaché à cette Église locale. Mais peut-être c'est une autre Église locale, je ne sais pas. Mais si vous êtes là et je ne sais pas, peut-être vous-même ici la première fois, je ne sais pas, mais dans votre cœur, vous ressentez le besoin, le désir de faire partie de l'Église de Jésus-Christ. Je vous invite aujourd'hui de prendre une décision, d'accepter par la foi. Si vous avez eu dans votre cœur la révélation que Jésus est vraiment le Fils de Dieu, vous croyez, parce que la Bible dit que si tu confesses avec ta bouche, le Seigneur Jésus, et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, que tu seras sauvé. S'il y a quelqu'un ici qui dirait, je ne sais pas, j'aimerais savoir, mais je ne suis pas sûr et certain à 100% que je suis enfant de Dieu aujourd'hui, mais je veux être son enfant. Je veux être une vierge pour le Seigneur. Je veux avoir mes péchés lavés, purifiés. Je veux être une pierre vivante dans la maison de Dieu. Je veux être un membre dans le corps de Jésus. Je veux. Je vous invite aujourd'hui, juste à lever la main, on va prier pour vous. Est-ce que quelqu'un, je ne vais pas embarrasser les gens, est-ce que quelqu'un qui dirait, j'ai besoin de donner ma vie à Jésus ce matin, faire partie de son corps, sa famille? Quelqu'un? Alléluia. Je ne vois pas des gens avec les mains, mais il se peut qu'il y ait encore des gens ici qui ont besoin de le faire. Jésus a dit, si tu me confesses devant les hommes, je te confesserai devant mon Père. Mais si tu me renies devant les hommes, je te renierai devant mon Père. Est-ce que quelqu'un, juste vite, je lève la main. Il y a une personne qui a levé la main. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a besoin de faire un pas, d'accepter Jésus comme Sauveur et Seigneur? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Il y a une deuxième personne. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Il y a une autre, trois personnes qui ont levé la main. Je ne connais pas l'histoire de votre vie, mais Dieu le connaît. Je ne connais pas votre cheminement, mais Dieu le sait. Je ne sais pas les choses que vous avez vécues, mais Dieu est au courant de tout. Et il vous aime. Il vous invite. Il se peut même qu'il y a quelques-uns qui ont levé la main, qui ont déjà fait une prière dans la passée pour être nés de nouveau, mais pour une raison quelconque, vous manquez de l'assurance, je ne sais pas, votre état. Mais le Seigneur vous aime. Et aujourd'hui, on va prier. Et on va demander au Seigneur d'entrer dans le cœur de chaque personne qui l'accepte pour la première fois. Et les autres, on va demander qu'ils reçoivent une assurance basé sur la parole, pas sur les émotions, mais sur la parole inébranlable de Dieu. Donc, on va juste prier. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Je vais lever la main vite. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? On va prier. Priez cette prière avec moi. Père Céleste, j'ai besoin de toi. Je viens devant toi avec un cœur humble, prêt à te suivre dès aujourd'hui jusqu'à la fin de la vie. Et pour toute éternité. Je confesse avec ma bouche que Jésus est mon Sauveur, mon Seigneur et mon Maître. À partir d'aujourd'hui, je vais me soumettre à lui. Je crois de tout mon cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. Merci Seigneur, que tu es entré dans mon cœur. Je suis une nouvelle création. Je suis lavé, purifié. Je suis comme une vierge, prêt à être présenté à toi. Au nom de Jésus. Merci Seigneur, que je fais partie de l'Église, la famille de Dieu, la maison de Dieu, l'épouse de Jésus-Christ et le corps de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. On va remercier le Seigneur pour ces âmes.